Bonjour à tous et merci d'être fidèles à l'émission Petites et Grandes Histoires de la Basse Marche sur RMJ. Cette aventure, Claude Perronnet l'a commencée voici 6 ans, en septembre 2015. Cela représente 292 émissions et 184 chroniques. Claude Perronnet qui nous a promis d'atteindre la 200e chronique. Nous allons faire une petite pause et nous reprendrons le cours normal des émissions produites par Claude Perronnet à compter du 16 octobre 2021. En attendant, et chaque week-end, nous vous proposons la rediffusion des premières émissions, celles de septembre et octobre 2015.
Tous les week-ends, Claude Perronnet nous raconte nos histoires de vie avec Petites et Grandes Histoires de la Basse Marche.
Bonjour à tous et merci de nous rejoindre pour cette nouvelle chronique des Petites et Grandes Histoires de la Basse Marche. Mais avant, un petit complément à notre séquence de la semaine précédente. J'ai indiqué la semaine dernière que le commerce des cheveux est une triste spécialité du Limousin et de la Basse Marche. Voici deux informations complémentaires. Dans le bulletin de la Société ethnographique du Limousin de juillet 1965, on peut lire ce témoignage de Maurice Brouillot. « J'ai eu l'occasion de noter, nous dit-il, une autre manière de faire le commerce des cheveux sur le territoire de la commune de Chamboret, en Haute-Vienne. En effet, un commerçant vendant du tissu recherchait les cheveux et il voulait de préférence les cheveux frisant naturellement. Ses cheveux connaissaient deux directions différentes, ou bien ils servaient à confectionner des perruques, ou bien ils étaient utilisés pour faire des chevelures aux poupées. Pour payer ses cheveux, le commerçant donnait une robe s'il s'agissait des cheveux de jeune fille. La plus belle robe revenait à celle qui avait les cheveux les plus frisés. Dans ce cas précis, il est assez difficile d'évaluer le prix de la livre de cheveux. » L'auteur du témoignage de préciser qu'il avait recueilli l'information auprès d'une personne qui avait obtenu une robe de cette manière au début du XXe siècle à Chamboret. L'autre information provient de Georges-Emmanuel Clancier dans La vie quotidienne en Limousin et de Michel Coissac dans Mon Limousin. « Toutes ces chevelures coupées aux pauvresses, nous disent-ils, pour orner le front des riches coquettes, représentait une masse capillaire considérable, à telle enseigne que chaque année à Limoges, pour la Saint-Jean, les 23, 24 et 25 juin, se tenait au Café de France une bourse mondiale du commerce des cheveux. Cela dura jusqu'en 1914. Tous les posticheurs, marchands de chevelure, représentants des grandes maisons de coiffure de France et même de l'étranger, s'y donnent rendez-vous. Il en vient de Paris, de Bordeaux, de Lyon, de Londres, de Berlin, d'Italie. Et pendant 3 jours que dure le marché, on pèse et l'on soupèse avec animation les nattes blondes et brunes. On examine avec intérêt les chevelures blanches, plus rares, celles-là, et qui, avec les rousses, atteignent les prix les plus élevés. Puis les cours s'établissent. De 300 à 350 francs le kilo pour les lots les plus rares, environ 150 francs le kilo pour les lots ordinaires. Il faut savoir qu'à l'époque, un vélo coûtait 100 francs, et qu'un instituteur gagnait un peu moins de 200 francs par mois.
Petites et grandes histoires de la Basse Marche.
Aujourd'hui, nous allons parler de l'arrivée du chemin de fer en Basse Marche et en particulier de l'inauguration de la gare de Magnac-Laval en septembre 1908.
Un petit train s'en va dans la campagne. Un petit train s'en va de bon matin.
Écoutez cet extrait de chanson. Elle dira quelque chose, c'est certain, à tous ceux qui ont plus de 60 ans. C'était André Claveau qui chantait cela.
Étonné de voir encore passer ce petit train qui lâche des panaches de fumée. La garde barrière agite son drapeau rouge pour dire bon voyage aux vieux mécaniciens. Mais dans les wagons, nul voyageur ne bouge, car ils prennent tous le car et le train ne sert à rien.
Pour nous, aujourd'hui, rien de plus commun que le train. Mais le petit train qui s'en va dans la campagne d'André Claveau appartient à l'histoire ancienne et au folklore. Au XIXe siècle, l'arrivée du chemin de fer dans nos régions fut une aventure extraordinaire, révolutionnaire, inimaginable même. Dans son ouvrage « Histoire du chemin de fer en Limousin », Claude Lacan nous explique que l'avènement du chemin de fer au XIXe siècle représente une révolution qu'il nous est difficile d'imaginer. Il ajoute « Il faudrait sans doute la révélation d'une vie extraterrestre aujourd'hui pour susciter un élan d'intérêt identique à celui qu'a généré au siècle dernier l'arrivée du rail. » C'est vous dire l'importance de l'affaire. Il faut dire que quand roulent les premières locomotives, vers les années 1830, l'homme de cette époque vit à peu près de la même manière que son grand-père qui a connu la révolution de 1789. C'est en 1831 que s'est déroulé le premier essai en France d'un transport de voyageurs par traction vapeur sur la ligne Saint-Étienne-Lyon. Et certains, comme le savant Arago, prédisent que les voyageurs des chemins de fer risquaient la pleurésie en franchissant les souterrains, que la trépidation des voitures déclencherait des maladies nerveuses, la danse de Saint-Guy, que la vitesse entraînerait des inflammations de la rétine, que la fumée et les escarbilles seraient la cause des bronchites et même des fausses couches pour les femmes enceintes. À l'inverse, d'autres pensent qu'une grande révolution sociale va sortir des chemins de fer, que la vitesse des trains ira aussi vite que la pensée et plus vite que les secrets d'État et que donc, ce sera la paix éternelle.
Les petites histoires font les grandes histoires. Tous les week-ends, Claude Perronnet nous raconte nos histoires de vie, les racines de la région, avec petites et grandes histoires de la Basse-Marche.
C'est en 1831, avons-nous dit, que se déroule le premier essai, mais il faudra attendre 77 ans, septembre 1908, pour que le chemin de fer et le train arrive jusqu'à Magnac-Laval. L'homme, un paysan de la Basse-Marche, s'appuya sur la manche de sa houe et cligna des yeux pour mieux voir dans le grand soleil qui inondait la campagne. Là-bas, au bout du champ, une calèche venait s'arrêter dans un nuage de poussière blanche. Quatre hommes, vêtus de sombre, en descendaient. Ils examinaient le terrain et l'un d'eux plantait un piquet. C'était donc vrai. Le chemin de fer allait passer ici, couper la colline, franchir la vallée. Cette scène allait souvent se répéter un peu partout en Limousin avec l'arrivée des géomètres venus préparer le tracé de la ligne. Essayons d'imaginer le choc qu'a apporté l'arrivée du chemin de fer dans ce pays déshérité, essentiellement rural, où les nouvelles et le progrès ne pénètrent qu'avec une sage lenteur. Aller à Paris était une véritable expédition. La plus grande vitesse que l'on puisse atteindre est celle d'un cheval au galop. Les routes sont dans un état déplorable, pratiquement rien n'a été fait depuis Turgot, et voilà que l'on nous annonce la venue du chemin de fer, ces monstres de fer et de feu. Des convois de plus de 10 diligences roulent à vitesse effroyable, sautent les rivières, traversent les montagnes dans des souterrains noirs et terrifiants. Le soir, à la veillée, quand les vaches sont rentrées à l'étable, que la traite est faite, autour de la cheminée où dansent les flammes, le chemin de fer alimente les discussions. Les colporteurs ont évoqué ces engins étonnants. Le facteur, qui sait lire, a annoncé la grande nouvelle parue dans la Gazette. Ils vont construire une ligne qui permettra d'aller de Limoges à Paris. Et puis, il y a les premiers émissaires de la compagnie qui ont acheté les terrains. Cette fois, c'est vraiment sérieux. C'est décidé. La ligne passera en bas du village, dans les prés du Baron. Il paraît même qu'il a hébergé l'ingénieur qui va construire la ligne.
Il a fallu 10 ingénieurs sortis dans les 10 premiers de Polytechnique, des ouvriers pleins d'ouvriers et des pots de vin fantastiques. Il a fallu, fichant l'air tous ces rochers, de la dynamite par tonne, et pour poser ces rails d'acier que l'on creuse et que l'on boulonne, il a fallu.
À cette époque, les lignes de chemin de fer portent le nom des villes qu'elles traversent, et le wagon du PLM qui emmène Yves Montand vers celle qu'il aime est un wagon du Paris-Lyon-Méditerranée ou du Paris-Lyon-Marseille.
Tous les week-ends, Claude Perronnet nous raconte nos histoires de vie avec petites et grandes histoires de la Basse-Marche.
Oui, il faudra des travaux et encore des travaux pour que le chemin de fer traverse le Limousin, pour qu'il arrive au Dorat, à Bellac, à Magnac-Laval. Le relief du Limousin, nous dit Claude Lacan, s'il n'oppose pas un obstacle infranchissable à la construction de la ligne, nécessite l'édification d'ouvrages d'art importants et suppose des terrassements d'un volume considérable. Il faudra prévoir le majestueux viaduc de Rocherolles enjambant la Gartan près de Bersac avec ses deux rangs d'arcades juxtaposées qui fait passer la voie à 53 mètres au-dessus de la vallée. Il faudra également percer des tunnels. Celui de la Girafie près de la Souterraine mesure 700 mètres. Celui du Combeau au nord de Saint-Sulpice-Laurière, 256 mètres. Celui de Laurière au sud de Saint-Sulpice, 796 mètres. Pour cela, des milliers de travailleurs sont à pied d'œuvre. Des baraquements s'élèvent, les charrettes défoncent la route et les chemins. Tous les corps de métier sont représentés, les gens du fer, ceux du bois et de la pierre, les terrassiers, les charrons, les bourreliers. L'intendance est présente avec les boulangers, les cuisiniers. Dans les grands parcs s'alignent les couples de bœufs, les mulets, les chevaux. Les fours de campagne s'allument pour cuire le pain. On ouvre des carrières pour extraire de gros blocs de granit qui seront charroyés à grand renfort de cris, de claquements de fouets pour être taillés, façonnés. Un monde cosmopolite s'installe avec ses règles, ses mœurs, ses coutumes. On y parle toutes les langues. Les maçons de la Creuse et du Limousin sont bien représentés, mais il faut compter avec les Savoyards, les Italiens, les Bretons, les Flamands, les Picards, les Bouviers du Morvan. On trouve encore des femmes de mauvaise vie, comme on dit, qui rôde le soir autour des baraques. Le général en chef de cette armée est monsieur l'ingénieur qui dirige avec les nombreux chefs de chantier qui eux-mêmes s'appuient sur la caste des compagnons du Tour de France. Comme dans une armée, il y a une avant-garde. C'est celle des débroussailleurs, des bûcherons, des coupeurs de bois, des artificiers qui font sauter à la mine les gros rochers. Viennent ensuite les cohortes processionnaires des terrassiers, actifs comme des fourmis, élevant les remblais avec la terre extraite des grandes tranchées qui écorchent les collines en de prodigieuses saignées. Au travail comme au repos, les ouvriers chantent. Et voici cette chanson des poseurs de rails que nous interprète René-Louis Laforgue.
Vaille que vaille, on creuse en pioche et l'on taille, par les champs et la rocaille, l'immense route du rail. Ré-hup, ré-hup, on construit un éventail qui par Rome ou par Nanterre grandit comme la semaille sur tous les coins de la terre. Ré-hup, ré-hup, dès que passe le matin, les sirènes nous appellent, on oublie le mal de rein. On n'est pas des demoiselles, ré-hop, ré-hop. Chaque jour, maille après maille, grandit le chaînon du rail, attaché à la ferraille, en cœur tout le monde braille, ré-hop.
Dans notre région, les travaux du chemin de fer ont commencé dans les années 1850. Le 2 juin 1856, la section Argenton-Limoges est ouverte au service des marchandises et le 16 juin de la même année a lieu l'inauguration du service voyageurs. On met alors 10 heures et 14 minutes pour relier les 400 km de Paris à Limoges et 11 heures 20 minutes dans l'autre sens pour relier Limoges à Paris. Il faudra attendre 1881 pour réaliser l'inauguration de la ligne Limoges-Poitiers par Bellac et Ledorat et le 13 septembre 1908 pour inaugurer la ligne de chemin de fer du Dorat à Magnac-Laval.
Petites et grandes histoires de la basse marche.
Nous voici enfin en ce célébrissime 13 septembre 1908, il y a 107 ans. Monsieur Louis Barthou, ministre des Travaux publics et donc ministre des Transports, a fait le voyage pour représenter le gouvernement et présider aux cérémonies de cette inauguration. Et voici comment le bulletin du Dolmen Club de Bellac, dans son édition de 1909, nous relate l'événement. Le 13 septembre 1908, Magnac-Laval était en liesse. C'était l'inauguration solennelle du chemin de fer du Dorat au dit Magnac, point terminus pour le moment. Le train ministériel, parti de bonne heure de Limoges, stoppe vers 9h du matin à Bellac pour y prendre les autorités, M. Beau, le sous-préfet, M. Héliot, maire et Maravaux, adjoints. Le train repart enfin, arrêt au Dorat, présentation. Monsieur Bartoud, en belle humeur, avise sur les quais de la gare du Dorat une femme du pays et lui demande, à brûle-pourpoint, si elle a jamais vu un ministre. Sur sa réponse ahurie et négative, Monsieur Bartoud lui dit « Regardez-moi bien, je suis le ministre des Travaux Publics, un homme comme les autres. » Le ministre remonte dans la voiture ministérielle, départ, et arrivé rapide à Magnac, à 7 km de là. La gare est pavoisée avec salon rouge frangé or pour les présentations sommaires de l'édilité magnachonne. Le temps presse, et au pas de charge, nous passons sous les arcs de triomphe et l'on s'engouffre dans la cour intérieure de la mairie où chacun attend d'être présenté individuellement ou encore, selon les cas, au ministre. Pendant que le cortège officiel exécute en ville les différents articles du programme arrêté en visitant les établissements publics, on se dirige par petits groupes au hasard des rencontres ou des affinités vers la salle du banquet. Immense vaisseau en planche de 600 couverts avec, sur la droite, une estrade centrale surhaussée. L'effet est superbe. Guirlandes de verdure à profusion et banderoles tricolores claquant au vent. Excellent déjeuner, service parfait. L'heure des palabres a sonné. Monsieur le préfet l'Allemand fait l'éloge du paysan limousin qui ne dit rien mais qui n'en pense pas moins. Monsieur le docteur Dubrac, maire de Magnac, en style tout imprégné des classiques, nous charme. Monsieur Petit, maire de Morterolles, président du conseil d'arrondissement, tient aussi à dire son mot et serait heureux, dit-il en terminant, que le bureau de l'enregistrement de Messine, récemment supprimé, soit réouvert. Espérons que le ministre compétent, quoique absent, aura entendu et compris. Monsieur le docteur Vacherie, député, souhaite à son tour la bienvenue au ministre. Le ministre Bartoud bientôt se lève et de sa parole chaude et sympathique nous fait assister pendant 3 quarts d'heure à un vrai régal. Il promet, en finissant, la croix de la Légion d'honneur au docteur Dubrac pour ses longs services médicaux et administratifs. Bravo, bravo, bravo. On se lève et au pas de course, on se rend à la gare pour retourner au Dorat où la municipalité a préparé au ministre et au monde officiel qui l'accompagne une brillante réception sous le hall de la gare des marchandises transformée en salle des fêtes. Une coupe de champagne est vidée, la cérémonie est terminée. Monsieur Bartoud monte en auto et disparaît vers l'Orière pendant que le train nous ramenait à Magnac-Laval.
Petites et grandes histoires de la basse marche.
La fête populaire bat son plein, la grande rue est vraiment superbe, pas une tache, pas une lacune. Toutes ces maisons sont plus ou moins pavoisées, plusieurs d'une façon artistique et luxueuse. À la nuit, un feu d'artifice est tiré, très brillant en effet, mais allumé avec trop de lenteur. Le froid aux pieds, nous sommes en septembre, gagne les spectateurs et l'on parcourt la ville partout pleine d'animation. Le bal champêtre lui-même a attiré beaucoup de monde. Et malgré les inégalités du sol, on s'y trémousse ferme. L'inauguration du tronçon du Dorat à Magnac-Laval fut une parfaite réussite. Celle de Limoges à Bellac rencontra par contre bien des difficultés.
Tous les week-ends, Claude Perronnet nous raconte nos histoires de vie avec petites et grandes histoires de la basse marche.
Le tronçon Le Dorat-Magnac-Laval fut donc inauguré en septembre 1908. Mais la ligne de Limoges à Poitiers par Bellac et Le Dorat avait, elle, été inaugurée 27 ans avant, en janvier 1881, par le sous-secrétaire d'État, M. Rénal. Le départ était initialement prévu à la gare de Limoges pour prendre la ligne de l'État jusqu'à Bellac. Mais le jour de l'inauguration, le 6 janvier 1881, un incident regrettable va perturber la cérémonie. Une partie du tunnel de la Bâtide s'est éboulée. Par ailleurs, des ponts sur le Vincoux ne sont pas achevés. Malgré tous les efforts des ouvriers, la ligne n'est pas prête. Qu'à cela ne tienne, le ministre est là, on va quand même inaugurer une ligne qui n'est pas terminée. Tout ce petit monde, le sous-secrétaire d'État accompagné par le préfet de la Haute-Vienne, le maire de Limoges, le secrétaire général, se retrouve sur les quais enneigés de la gare de la Compagnie d'Orléans. Ils partent vers Bersac, puis Bessines, puis Château-Pontsac, puis vers l'Eudorat, où ils vont suivre la ligne de l'État jusqu'à Bellac. Pour le retour, ils iront de Bellac au Dora par la ligne d'État, puis du Dora à Limoges via Bersac.
Petites et grandes histoires de la Basse Marche.
En Basse Marche, il y a alors de grands projets de développement du chemin de fer. Le député maire de Bellac, M. Labuse, les présente lors de l'inauguration de la gare de Bellac. Outre les 7 km de voie entre le Dora et Magnac-Laval pour relier les deux parties de la subdivision militaire qui seront réalisées, on prévoit une ligne de 30 km entre Bellac et Confolens, et une autre entre Magnac-Laval et Argenton-sur-Creuse ou Saint-Sébastien. Mais ces projets resteront lettres mortes. La ligne du Dora à Magnac-Laval fut fermée au trafic voyageurs en 1932, soit 24 ans après son inauguration. Elle fut cependant utilisée pour le transport des marchandises pour l'usine de carton de Magnac-Laval jusqu'en 1988. Quant à la ligne de Limoges au Dora par Bersac, Bessines, Château-Pontsac, elle fut fermée aux voyageurs en 1939. Mais sa fermeture au trafic marchandises se fit en deux temps. En 1970 pour la portion Château-Pontsac-Lodora et en 1987 pour la portion Château-Pontsac-Bessines après la fermeture des ateliers Montmorency de Château-Pontsac. Il est à noter aussi que notre région du nord de la Haute-Vienne va se doter d'un formidable réseau de chemins de fer départementaux, de tramways, qui fonctionnera de 1912 à 1949 et dont le nœud ferroviaire sera Rancon. Nous y consacrerons une chronique en février prochain.
Il n'y avait rien qu'un passager. C'était encore le conducteur. Imaginez pour voyager, si c'est pas la vraie petite douleur.
Merci de nous avoir suivis pour cette chronique des petites et grandes histoires de la Basse Marche. Pour cette séquence, nous avons pioché dans l'ouvrage de Claude Lacan, Histoire du chemin de fer en Limousin, et dans les bulletins de l'année 1909 du Dolmen Club de Bellac. Sur le plan musical, nous avons fait appel au groupe Maluserne et Grand-mère Essoufflée, à la fanfare Léon Malaquais, à celle de Granville, aux chanteurs André Claveau, Yves Montand et Félix Leclerc que nous écoutons en ce moment.
Les petites histoires font les grandes histoires. Tous les week-ends, Claude Perronnet nous raconte nos histoires de vie, les racines de la région. La Basse Marche a plein d'histoires à raconter. Écoutez-les les samedis à 11h et dimanche à 13h avec Petites et Grandes Histoires de la Basse Marche.
Paraître qu'on l'a vu filer dans le firmament la nuit passée. Oh, le trait du Nord. Le trait du Nord a perdu le Nord, rendu l'autre bord. Le trait du Nord a perdu le Nord, puis c'est pas moi qui va le blâmer. Non, non, non.